Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Média. Bain de culture avec David Labo.
Bonjour à tous, dimanche 5 mars, le soleil brille un peu partout au Maroc. La campagne est en fleurs, l'hiver derrière nous. Content de vous retrouver pour parler comme chaque semaine de l'actualité culturelle. Notre premier invité aujourd'hui, c'est le président de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, Madison Cox. Bonjour.
Bonjour.
Un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. De nouvelles expositions au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. On en parle avec vous. La première, elle est dédiée à un artiste américain, Cy Twombly. Pour situer la période, il est né à la fin des années 20. Il nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et cet artiste américain avait un lien avec le Maroc dans sa jeunesse. Il était venu ici dans le Royaume. C'était au début des années 50. Il avait 25 ans.
Mais absolument. Écoutez, c'est un homme qui est, surtout pour la deuxième partie du XXe siècle, un des grands maîtres de la peinture occidentale. Et c'était fascinant d'apprendre, parce que moi j'ai appris ça assez récemment, il y a 3 ans, qu'en fait il avait fait ce passage à l'âge de 25 ans au Maroc. Il a reçu une bourse de son collège d'art aux États-Unis de faire un voyage en Europe. Il est arrivé de New York en Italie, il est resté quelques semaines et il est débarqué à nouveau pour le Maroc, pour découvrir le Maroc. Et pour moi, c'était fascinant d'apprendre que cet artiste qui est considéré comme un des grands dieux de la peinture fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, a eu ce passage marocain. Et suite à son séjour au Maroc de 9 mois, il est entré à New York. Il a fait une série de tableaux, de 6 tableaux. Chacun porte un nom d'un lieu ou un site différent au Maroc, que ce soit Volubilis, Ouarzazate, Tiznit, etc. Et aujourd'hui, ces 6 tableaux sont soit dans des collections privées, ou 2, c'est dans des collections des musées nationaux, au musée américaine. Et on a eu la grande chance de pouvoir se faire prêter des tableaux de Houston, qui est titulé Volubilis.
Madison, ce qui est exposé, c'est cette série de tableaux. Il y a d'autres œuvres exposées?
Alors, ce que nous avons, c'est que nous avons un grand tableau qui mesure à presque 2 mètres par 1,75 m, donc titulé Volubilis, un grand tableau, plusieurs carnets de croquis, de sketchs et de dessins qu'il a fait sur place au Maroc, durant ses voyages partout, les photos qu'il a fait durant son voyage et des très grands dessins faits sur New York, mais basés sur ses recherches au Maroc. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est un jeune Américain, comme vous avez bien dit. Il avait 25 ans. Il a eu cette bourse extraordinaire de voyager en dehors de son propre pays. Il a choisi l'Europe. Il faut bien dire que c'est l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une Europe assez dévastée. L'Italie était des parties de Rome, des parties d'Italie. Les Siciles, c'était des parties des pays, ou même l'Europe, que ce soit la France ou l'Allemagne, qui était dévastée par la guerre, qui était terminée quelques années avant.
Et donc, c'était coutumier, je crois, de la part de jeunes Américains, peut-être un peu aisés et puis lettrés, de commencer comme ça leur vie par un parcours initiatique en Europe.
Mais lui, il n'était pas aisé du tout. C'était un garçon qui n'avait très peu de moyens. Il a gagné cette bourse de 1 000 $ qui lui a permis de voyager durant un an, qui était quand même rarissime. Bien sûr, il y avait une catégorie d'artistes très aisés, qui s'installaient à Paris ou à d'autres grandes métropoles. Mais lui, il n'était pas du tout aisé. Il est parti d'ailleurs avec un artiste, un copain qui est également artiste, qui avait 24 ans, Robert Rauschenberg, qui lui également aussi est devenu un des plus grands stars ou les plus grands maîtres de cette période, de fin du XXe siècle, dans l'Occident. Mais ce que je veux dire, c'est un garçon qui n'avait pas des grands moyens. Au contraire.
Madison, vous l'avez cité, en fait, il ne voyageait pas seul. Il a voyagé avec un ami, un artiste peintre comme lui, Robert Rauschenberg. Vous l'avez prononcé beaucoup mieux que moi. Et ensemble, ils ont donc parcouru le Maroc, alors certaines grandes villes, Casablanca, Marrakech, ici, Tanger, où ils ont eu l'occasion de rencontrer Paul Bowles. Je crois qu'ils sont passés par Tétouan, où Cy Twombly a réalisé de beaux clichés de la ville de Tétouan. Et puis, avec Robert Robert Rauschenberg, ils partageaient ensemble cette passion de l'Antiquité, ce qui les amenait à visiter aussi des sites archéologiques marquants du Maroc. Hein.
Absolument, que ça soit Volubilis, qui est donc le titre de ce tableau que cette institution américaine nous a prêté. Mais par contre, il a visité aussi des sites dans le sud, dans le Sousse, et aussi des villes comme Tiznit, où il y avait des sites berbères. Ce n'était pas, et pas que les sites, mais également aussi les sites romains ou les sites d'antiquité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette passion pour découvrir soit la nature du pays, parce qu'il y a toute une série de clichés photographiés des vergers et des, ou sinon des natures mortes, mais dans les contextes très modestes, les cafés, etc., ou sinon toute une série de stèles berbères ou des constructions en ruines, que ce soit des greniers ou des sites religieux berbères. Donc c'était fascinant. Il n'a dans aucun contexte capté les images de Fès ou de Rabat ou de Meknès ou de Casablanca. Par contre, ce qui lui passionnait, c'était vraiment cette passage ou cette historique encore plus ancienne que tout ça, si vous voulez.
Voilà, le regard de ce jeune artiste américain sur le Maroc, durant le Maroc des années 50, Cy Twombly, cette exposition donc, qui débute tout juste au musée Saint-Laurent. Et puis il y a aussi une deuxième exposition, donc elle rend hommage au créateur, à Yves Saint-Laurent. Vous proposez, le musée, une sélection de croquis de ses dessins?
Oui, effectivement, parce que je trouvais que c'était important de voir en parallèle avec cette jeune artiste, les œuvres de cette jeune artiste quand il avait 25 ans, de Cy Twombly, qui est quand même un grand maître, et aussi mettre en juxtaposition les œuvres de Saint-Laurent, mais très peu connues, ou très peu exposées, ou très peu appréciées, ce sont ses dessins. Et donc, ce que je veux dire, c'est des dessins de modèles, futurs modèles. Donc, ce sont ce qu'on appelle des croquis. Et très souvent avec l'œuvre de Saint-Laurent, qui est un des rares couturiers, même aujourd'hui, aucune personne qui fait de la mode font les croquis ou les sketchs. Tout ça, c'est copier-coller, ou c'est fait sur l'ordinateur, ou c'est, etc. Mais cet enseignement est presque perdu, cette histoire de pouvoir dessiner. Et donc, Saint-Laurent avait un grand, très, très grand main, où il arrivait même en petits trois traits d'évoquer que ce soit un tissu, que ce soit un tissu léger comme un chiffon, ou un tissu lourd comme un lainage ou un tricot, etc. Mais il avait cette extraordinaire don de pouvoir dessiner. Et ce qui est passionnant ou fascinant, je trouve, c'est que la plupart de ses dessins, peut-être 95, si c'est pas 90% de ses dessins, étaient effectués durant ses séjours au Maroc et surtout ses séjours à Marrakech. Car c'était quelqu'un qui venait à Marrakech dans ce qu'on appelle des vacances, mais il repartait avec des centaines et des centaines et des centaines de croquis faits chez lui durant ses séjours annuels pour les futurs modèles de vêtements.
Saint-Laurent ne connaissait pas vraiment les vacances. Hein. Pour lui, les vacances, c'était un lieu d'inspiration où il fallait produire, travailler.
Exactement. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui venait au Maroc parce qu'il faisait beau et jouait au golf dans l'après-midi. Bien sûr, il allait dans les souks parce que c'est la passionnée, ce patrimoine que vous avez, extraordinaire. Et ses savoir-faire, et ses traditions dans la mode, ses traditions dans les broderies, ses traditions dans la coupe, etc. Mais c'est quelqu'un qui, quand il venait ici, c'était aussi travailler énormément. Et donc, c'était fascinant de voir comme de montrer à notre public, nos visiteurs, que ce soit les Marocains ou les étrangers, que le rôle qu'a joué le Maroc également aussi comme un lieu de travail. Ce n'était pas juste un lieu où on dit souvent qu'il découvre la couleur, etc., ici au Maroc, ce qui est vrai. Mais c'est plus profond que ça. C'était vraiment un lieu où il se sentait complètement à l'aise et inspiré de pouvoir créer ses futurs modèles.
Voilà cette exposition sur le travail de Saint-Laurent, cet autre regard sur le travail de Saint-Laurent à travers ses croquis. Saint-Laurent, très portrait, c'est une exposition visible jusqu'à la fin de l'année. Et puis Cy Twombly, ce jeune artiste américain qui était venu ici au Maroc au début des années 50. Cette exposition, elle est à voir jusqu'à début juillet au musée Saint-Laurent de Marrakech. Attention, je le précise, les billets sont disponibles dorénavant uniquement en ligne. Hein, c'est bien ça?
C'est absolument ça.
Voilà,
absolument
donc prenez garde. D'abord acheter ses billets en ligne avant de pouvoir visiter ses expositions. Merci beaucoup Madison Cox d'avoir répondu à ces questions pour nous dans Ban Culture.
Merci à vous, hein. C'était un grand plaisir. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground since my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up all you people, order anything you see. Have fun, you happy people, the drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. So drink up all you people, order anything you see. Have fun, you happy people, the drink and the laughs of me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
On parlait des années 50 tout à l'heure avec cette expo sur Cy Twombly au musée Saint-Laurent de Marrakech. On vient d'écouter Matt Deniz avec Angel Eyes. C'est un événement. Pour la première fois, l'Institut du monde arabe à Paris présente une exposition hors de France. Cela se passe chez nous, au Maroc, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une centaine d'œuvres d'artistes issues d'une quinzaine de pays arabes, en majorité des peintures, mais également des sculptures, des photographies datant de l'après-Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. C'est visible jusqu'au 15 juin. Puis l'exposition va tourner au Maroc. Elle devrait passé notamment par Marrakech et par Tanger. Lima, présidé par Jack Lang depuis 10 ans, il est candidat actuellement à sa succession pour un quatrième mandat. Ce qui a marqué sa présidence ces dernières années, c'est une extraordinaire donation faite par un collectionneur, Claude Leman. L'histoire est assez formidable. On avait reçu Monsieur Leman dans l'émission. Je vous propose de réécouter cette interview. C'était en juin 2019.
Midi, bain de culture avec David Labou.
C'est une donation impressionnante et absolument exceptionnelle dont l'Institut du monde arabe à Paris vient d'hériter. 1300 œuvres d'art réalisées par une centaine d'artistes différents, le travail, la passion de toute une vie. Bonjour Claude Leman.
Bonjour.
Cette donation, on vous la doit à vous et à votre épouse, France Leman. Vous êtes galeriste. On va parler ensemble de ce que cela représente, du sens de votre geste. Mais auparavant, j'aimerais que l'on parle de vous un petit peu. Vous êtes Libanais, vous êtes né en 1945, des études de linguistique. Vous êtes parti faire votre doctorat en France. À la fin de vos études, vous auriez pu y rester. Mais non, vous avez fait le choix de revenir dans votre pays, d'enseigner à l'université. 9 mois plus tard, la guerre éclate. En décembre 1975, vous êtes enlevé. Vous dites que l'expérience, et on le comprend, vous a marqué à vie. Vous avez fait le choix de quitter le Liban pour toujours. Vous partez enseigner en Égypte. Et c'est dans ce pays qu'avec votre épouse France, vous allez commencer à vous intéresser réellement aux artistes du monde arabe. Vous souvenez-vous de la première œuvre que vous avez achetée ?
Oui, on se souvient parce que moi, disons, je suis originaire d'une famille modeste libanaise et avec le temps, avec mes études universitaires, je me suis ouvert aux arts, et y compris aux arts plastiques, alors que ma femme, elle est d'une famille française cultivée dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique. Son grand-père était un grand écrivain, collectionneur, qui a fait don au musée d'art moderne, qui est actuellement le centre Pompidou, de 300 œuvres sur un poème qu'il avait écrit en 1950, Portrait de l'oiseau qui n'existe pas, et que nous exposons actuellement au musée de l'Institut du monde arabe. Effectivement, c'est en Égypte, à partir de 1981-82, que de mon côté, la passion pour l'art a commencé, et j'ai acheté tout naturellement, tout simplement, avec les moyens que j'avais à l'époque, une très belle œuvre de Ghazal. Ghazal est un grand peintre égyptien, c'est la vraie école égyptienne, si vous voulez, arabe, du surréalisme.
Vous dites que vous ressentez le besoin physique de posséder une toile, de pouvoir l'accrocher chez vous. L'avoir dans un livre, dans un musée, cela ne vous suffit pas.
Ah, ça c'est vrai. Bon, c'est un trait de mon tempérament. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ainsi que ça ne m'a jamais suffi, même lorsque j'avais peu de moyens et j'avais besoin d'acheter. J'ai fait des erreurs, évidemment, mais
ça veut dire quoi faire, ça veut dire quoi faire des erreurs? Ça veut dire parier sur un artiste après qu'il ne devient pas grand-chose?
Oui, à un moment donné, j'ai acheté des œuvres d'artistes, puis après coup, je dis non, ils ne m'apportent rien. Ils sont peut-être, au premier regard, ils sont séduisants, mais avec le temps, un mois, six mois, un an, ça ne m'apporte rien. Parce que, voyez, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'un artiste, il est né dans une famille, dans un milieu, dans un pays avec une ou plusieurs cultures. Et s'il se contente d'exprimer juste ces éléments-là, ça ne m'apporte rien. Alors que c'est comme un arbre. S'il tend ses racines dans sa culture, mais aussi au-delà, dans les d'autres cultures du monde, il augmente, il grandit, il a des feuilles, des fleurs, des fruits. Et s'il atteint le niveau personnel et universel à la fois, là, il a quelque chose à dire, non pas seulement aux gens du coin de son pays ou de son milieu, c'est entre l'œuvre et nous, s'il y a une communication, c'est fabuleux, c'est vraiment une richesse extraordinaire.
Claude Le Mans, on revient un peu sur votre parcours. En 1988, vous vous installez en France, vous quittez l'enseignement et vous ouvrez une galerie à Paris. Vous allez constituer alors un réseau d'artistes autour de vous ?
Oui, petit à petit. Mais j'ai été aidé en cela par l'état du marché en 88. Comme le crash boursier avait eu lieu en 87, tout le monde s'est porté sur le marché de l'art en pensant que ça, c'était le meilleur investissement. Et moi, mes rapports avec les artistes étaient à la fois des rapports de galeristes, donc il faut exposer, il faut publier des catalogues, il faut participer à des foires, il faut faire la promotion de ces artistes, et d'autre part, continuer à la collection. Parce que c'était à part égale les deux préoccupations, si vous voulez. Et dans les périodes creuses, quand on fait des expos et qu'on ne vend rien, ou très peu, moi, j'ai tenu à ma fidélité à ces artistes-là que j'aimais, et eux-mêmes, ils se sont attachés à moi, et c'est là que je leur ai acheté des œuvres, et beaucoup, beaucoup, et que j'ai pu constituer, au fil des 30 années, une belle collection.
Claude Le Mans, la donation est composée de près d'une centaine d'artistes, on ne peut évidemment pas tous les citer. Quels sont les artistes majeurs, s'il y a des figures comme cela qui se détachent,
hein ? Disons que sur 94 artistes, j'ai 68 qui sont originaires du monde arabe. J'ai deux artistes qui sont malheureusement décédés, un Algérien qui s'appelle Abdallah Benanteur, qui est arrivé à Paris en 1953, et un artiste libanais, Shafik Abboud, qui lui était arrivé à Paris en 1947. C'est fondamental pour moi la relation aussi avec Paris. Comme je vous disais, chaque artiste est originaire de quelque part, d'un milieu, d'un pays, d'une culture, mais ici, ils ont eu la chance de redécouvrir leur tradition artistique, de redécouvrir leur culture et de s'épanouir en compagnie d'autres artistes venus du monde entier. Parce que ces artistes-là, ils ont travaillé avec les Chinois Zhaoqi, avec l'Américain San Francis et John Mitchell, avec le Yougoslave Velikovic, etc. Et donc, c'est très, très important, cet aspect international du rayonnement. Maintenant, c'est sûr que j'ai dans la donation 3 artistes importants marocains, j'en ai une dizaine d'Algériens. Et puis, puisque vous diffusez aussi vers la Mauritanie et l'Afrique de l'Ouest dans notre donation, nous avons un artiste sénégalais. Nous sommes passionnés par les artistes du Soudan.
Quel est-il cet artiste sénégalais ?
Souleymane Keïta. C'est un artiste qui a été très très proche du sculpteur Ousmane Sow.
Et... dont on a parlé très récemment dans cette émission. Claude Lemans, il y a une dimension totalement dramatique dans l'histoire de votre famille. Cette donation, vous dites que vous la dédiez à vos 4 grands-parents morts de la famille il y a un siècle, en 1916 et 1917 au Liban et en Syrie. C'est un épisode méconnu en Occident de la Première Guerre mondiale. Une période terrible où la région du Mont-Liban, par exemple, va perdre entre un quart et un tiers de sa population. Vos deux parents sont devenus orphelins. Génération après génération, le massacre, dites-vous, continue. Et notre mission, c'est de témoigner de la face lumineuse de l'humanité. Votre collection, cette donation, c'est cette face lumineuse.
Je vous remercie vraiment de faire cette citation parce que moi, je ne suis pas capable de la lire sans vraiment m'effondrer. Parce que j'ai découvert cette vérité. Qu'ils sont morts de famine juste l'été dernier, quand je faisais une recherche sur l'histoire de l'art dans notre région. Parce que dans la famille, nous savions que mes deux parents étaient orphelins, mais nous ne savions pas pourquoi. Pendant la guerre 14-18, la marine française et anglaise avait fait le blocus face à l'Empire ottoman pour le faire tomber. Mais les Ottomans eux-mêmes sont venus du côté terre et ils ont fait le blocus face à la Syrie et au Liban. Voilà le drame. Et pour moi, cette donation que nous faisons, on en rêvait depuis très très longtemps. Et c'est vrai ce que vous dites. On peut être vraiment très pessimiste sur l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que je suis. Je suis profondément pessimiste. Mais je me rends compte que sur le plan de mon tempérament, dans la vie réelle, je suis très optimiste. Je mène des actions tout le temps. Pour que la culture, pour que la connaissance soit à la portée de tous. L'humanité a une face lumineuse. Et c'est ça que nous voulons laisser comme témoignage.
Vous dites que avec cette donation, vous, Claude, et votre épouse France, vous donnez un sens, en quelque sorte, à votre vie. C'est extraordinaire, hein, la donation que vous faites. 1300 œuvres, elle augmente des 2/3 le Fonds moderne et contemporain de Lima. Pour mettre en valeur votre donation, il va falloir entièrement réaménager l'institution. Une réflexion est en cours, une opération de collecte de fonds a été lancée pour réaménager l'Institut du monde arabe à Paris et donner toute la place qui convient à votre donation. Merci beaucoup, Claude Lemans, d'avoir accepté l'invitation de Bain de Culture ce dimanche.
Merci à vous et tous mes voeux que l'humanité soit toujours plus belle.
Voilà pour cette interview réalisée en juin 2019. Et effectivement, depuis l'Institut du monde arabe à Paris se réorganise et fait place progressivement à ses œuvres offertes par Claude Lemans et son épouse. C'est à suivre dans les prochaines semaines dans Bain de Culture. En marche, le festival de danse contemporaine revient à Marrakech à partir de vendredi. L'événement créé, impulsé, dirigé par le chorégraphe et danseur marocain Taufik Izediou. Ce sera jusqu'au vendredi 18 mars. À venir également le retour d'un très beau projet porté par l'Institut culturel français au Maroc, la caravane Kafila, une résidence de création itinérante à travers le désert. Une douzaine d'artistes marocains et français ont été sélectionnés. Ils vont marcher ensemble pendant un mois. Le départ sera donné vendredi prochain au sud de Zagora. Et vous savez quoi ? Eh bien, chaussures de marche aux pieds, Bain de Culture sera de la partie pour le début de cette caravane. Et puis, on parlait de Lima. L'Institut du Monde Arabe à Paris accueille la semaine prochaine un festival musical. Ça s'appelle Arabo Folies. Parmi les invités, la chanteuse Oum. Et Oum sera notre invitée la semaine prochaine dans l'émission. C'est la fin de Bain de Culture pour ce dimanche. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.